Bon bah j'espère que tout le monde est revenu. J'espère que cette pause café vous a permis d'échanger entre vous et aussi de jeter un œil aux photographies qui nous ont gentiment été prêtées par l'Association Cannaise des étudiants naturalistes, que nous remercions encore une fois chaleureusement. Alors pour cette seconde partie de la matinée, on va débuter avec une mini-présentation de l'Office français de la biodiversité, une entité nouvelle. Et c'est Jeanne que j'accueille et qui va encore vous présenter cette, encore une nouvelle fois, Jeanne. Voilà.
Merci. Eh bien bonjour, c'est encore moi. Et cette fois, je vais vous parler de l'OFB. Donc normalement, vous savez ce que c'est, on en a parlé plusieurs fois, vous avez suivi. C'est pas l'ordre franco-breton, c'est pas l'organisation française de belote, mais c'est bien l'Office français de la biodiversité. Donc cet office, on l'a étudié de long en large et en travers avec mes collègues cette année, et c'était l'occasion de revenir un petit peu sur d'où vient la structure et sur ses grandes missions. Donc pour commencer, l'Office français de la biodiversité, c'est une entité qui est toute jeune, date de naissance 1er janvier 2020. Et ses parents, vous les connaissez peut-être davantage. Donc l'organisme, il est né de la fusion de deux entités. D'un côté, MAMAN, l'Agence française de la biodiversité, l'AFB. Donc elle a été formée en 2016 et c'est la descendante de la fusion de plusieurs organismes notoires de l'environnement que vous connaissez sans doute aussi, comme l'ONEMA ou l'Agence des aires marines protégées. Donc elle se chargeait plutôt des missions de protection de la biodiversité, du développement des connaissances autour de celle-ci ou encore une gestion équilibrée des eaux. D'un autre côté, PAPA. L'ONCFS, donc l'Office national de la chasse et la faune sauvage. Donc ces missions, elles tournaient plutôt autour de la police de l'environnement, de tout ce qui va être délivrance du permis de chasser ou encore l'étude de la faune sauvage. Donc bon, deux organismes qui avaient quand même des missions assez différentes, mais qui avaient de nombreux points communs. Par exemple autour de l'acquisition et la diffusion des connaissances, la protection de la biodiversité bien sûr, ou encore la sensibilisation aux grands enjeux environnementaux. De cette fusion est donc née l'OFB, qui est un établissement public de l'État et qui est sous tutelle de deux ministères, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc maintenant, à quoi ça sert? Cet organisme, son but principal, c'est de protéger et restaurer la biodiversité sur la totalité du territoire français, outre-mer compris, qu'il s'agisse de nos espaces maritimes, nos espaces terrestres ou nos espaces aquatiques. Donc depuis la fusion, l'Office a récupéré toutes les missions des anciennes structures qu'il a remplacées, et ce sont ces missions que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc officiellement, l'Office en a cinq. La première, c'est la mission de police de l'environnement. Parce que oui, les espaces naturels, l'eau, la faune et la flore, la pêche, la chasse, ont aussi besoin d'un cadre de contrôle et de surveillance. Il y a donc 1700 agents en fonction qui vont prévenir et sanctionner les atteintes à l'environnement. Alors, ils ne font pas partie de la police nationale, mais ça reste des forces de l'ordre capables de poursuivre des comportements contraires à la loi. Deuxième grande mission, c'est le développement des connaissances et de l'expertise autour de la nature et de ses composantes. Alors effectivement, ça paraît primordial, puisque plus on en sait sur une espèce, sur un habitat, plus on va être à même déjà d'évaluer l'impact des activités humaines dessus et d'assurer leur protection. Et toute cette information collectée, elle va aussi permettre de guider les orientations, les décisions des acteurs de la biodiversité. Et aussi, ça va permettre de sensibiliser le grand public à son érosion. Troisième grande mission, l'appui aux politiques publiques. Des politiques publiques, bien sûr, en faveur de la biodiversité. Donc aujourd'hui en France, outre les textes de loi, on a beaucoup de stratégies, de plans d'action autour de la biodiversité. Donc par exemple, sur les espèces exotiques envahissantes, maintenant vous savez ce que c'est, sur les poissons migrateurs, ou encore sur la continuité écologique des cours d'eau. Quatrième grande mission, gestion et restauration des espaces protégés. Donc la France est un pays qui a beaucoup d'espaces remarquables en termes d'habitat, en termes d'espèces ou en termes de services écosystémiques, et il faut donc les préserver d'une érosion qui serait irréversible. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 21% de terres et 32,5% de nos eaux qui sont des espaces naturels protégés, et l'OFB va être parfois le gestionnaire, parfois le co-gestionnaire d'un certain nombre d'entre eux, notamment dans le milieu marin. Et enfin, cinquième grande mission, et peut-être celle qui va le plus rejoindre la question de notre colloque, c'est la mobilisation de la société et l'appui aux acteurs. Donc pour que tout le monde s'engage en faveur de la biodiversité, que ce soit les acteurs, les décideurs, mais aussi les citoyens, le sujet de la biodiversité doit devenir aussi préoccupant que le sujet du climat dans l'opinion publique. Donc toutes ces missions, pour qu'elles soient menées à bien, la communication est un point essentiel. C'est cependant une stratégie de communication encore embryonnaire qu'on retrouve à l'OFB. Donc je vous l'ai dit, C'est une entité qui est toute jeune, donc tout est nouveau. Donc pour le moment, ils utilisent des outils socles assez basiques, comme des plaquettes ou un site internet qui est bien fourni, mais c'est peut-être une stratégie encore trop limitée pour atteindre le grand public. J'avoue que moi, je ne connaissais pas l'organisme avant de travailler dessus, et il semblerait que ce soit le cas pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, peut-être que ce serait une grande mission à développer dans le futur. En attendant, l'OFB est un organisme très important, j'ai presque envie de dire vital, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Visitez leur site internet, on vous a mis le lien juste derrière. Merci de m'avoir écouté, c'était très court, et je redonne tout de suite la parole à Fantine.
Eh bien, merci Jeanne pour ta présentation de l'Office français de la biodiversité qui nous aura permis de mettre en lumière cette structure ou pourquoi pas de la faire connaître si ce n'était pas le cas pour tout le monde. Cela me permet maintenant de rebondir sur notre territoire en donnant la parole à Colline qui va, grâce à la participation de Monsieur Morvan Debroise, donc animateur en éducation au développement durable pour le parc naturel régional Normandie-Maine, nous présenter une initiative mise en place pour la biodiversité.
Merci Fantine. Bienvenue du coup à Monsieur Morvan Debroise. Donc,
merci.
Si vous souhaitez. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour cette séquence, nous allons échanger pendant environ 20 minutes et à la fin, vous aurez le droit de poser donc, vos questions à Monsieur Debroise sur son activité et ses initiatives. Donc, Monsieur Debroise, vous travaillez au parc Normandie-Maine. Donc, je vous laisse commencer votre présentation si vous le souhaitez pour nous parler aujourd'hui des défis famille à biodiversité positive.
Bonjour à tous déjà. Donc avant de me lancer réellement sur le projet des défis famille à biodiversité positive, je vous propose de faire une petite présentation sur ce que c'est qu'un parc naturel régional. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques élus locaux dans la salle. Est-ce qu'il y a un élu du parc naturel régional Normandie-Maine ? Eh bien écoutez, je vais être le représentant des 141 communes du parc naturel régional Normandie-Maine. Donc du coup, on ne pourra pas contrôler si je dis des bêtises ou pas. Donc, désolé. Alors, je reviens en arrière. Donc, le parc naturel régional Normandie-Maine, il fait partie d'un réseau des parcs naturels régionaux de France qui, en plus, ont fait parler d'eux il y a pas très longtemps sur France 5. Parc naturel La Grande Mascarade, je ne sais pas si certains l'ont vu. Donc, je vais remettre un peu les choses au point sur ce que c'est qu'un parc naturel régional. Donc si on suit un peu la définition, un peu entre guillemets celle qu'on pourrait retrouver dans un dictionnaire, un parc naturel régional, c'est un territoire à forte dominante rurale, habité, qui a su préserver son patrimoine naturel, culturel et paysager, et qui s'organise autour d'un projet concerté avec les habitants, les élus, les acteurs, sur le développement économique, social de ce territoire, en respectant les règles du développement durable. Concrètement, un parc naturel régional n'est pas un parc national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise sous cloche de la nature, il n'y a pas de pouvoir de police de l'environnement dans un parc naturel régional. C'est d'ailleurs l'OFB qui va avoir ce pouvoir-là et qui l'aura également sur un parc naturel régional. Donc, autre chose importante, les parcs naturels régionaux ne sont pas non plus des structures militantes. Par exemple, on a parlé du bocage, c'est quelque chose de très très important sur notre territoire. Aujourd'hui, on estime que pour 1 km de haies plantées sur notre territoire, on a 1 km qui disparaît également. C'est-à-dire qu'on arrive à stabiliser l'érosion du bocage. En 50 ans, sur le parc Normandie-Maine, on a perdu à peu près 50% de notre bocage, là où dans d'autres régions, on aurait pu perdre 70, 80, voire même 90% du bocage. Donc tout ça, en fait, limiter par exemple l'érosion du bocage, ça ne peut se faire qu'avec des projets concertés avec les agriculteurs, les habitants, les communes, avec de la sensibilisation, de l'accompagnement, qu'il soit du conseil ou financier, pour limiter ça. Mais à aucun moment, on a de pouvoir de vraiment avoir une protection stricte, des habitats naturels ou des habitats paysagers. Et à aucun moment, on a de pouvoir de police, ni même de militer sur des acteurs qui feraient n'importe quoi, entre guillemets. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair maintenant pour tout le monde sur la grande mascarade des parcs naturels régionaux. Donc aujourd'hui, en France, vous avez 58 parcs. Et en Normandie, donc vous avez 4 territoires. Donc Marais du Cotentin et du Bessin, Boucle de la Seine Normande, le parc naturel régional Normandie-Maine, donc, qui est en rouge hein, finalement, et un qui est à cheval sur la région aussi Centre-Val-de-Loire, qui est très connu, c'est le parc du Perche. Donc vous avez quelques chiffres, hein, je les cite pas. En quelques mots, donc, du coup, le parc Normandie-Maine, il est à cheval sur deux régions, Normandie-Pays de la Loire, sur quatre départements, donc une grande partie de l'Orne, la Sarthe, la Mayenne et la Manche, et ça représente 141 communes aujourd'hui. On est sur un territoire très très forestier, c'est pour ça que notamment le logo du parc Normandie-Maine, c'est un cerf, avec des grands massifs forestiers comme la forêt d'Andenne, la forêt des Couves, qui sont des massifs domaniaux. On est aussi un territoire de relief. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hauteurs du massif armoricain prennent naissance sur le parc Normandie-Maine. Je ne sais pas si certains connaissent le mont des Avaloirs, c'est le point culminant du massif armoricain, il est sur le parc Normandie-Maine. Et aussi, chose très importante, on est un territoire en tête de bassin versant, à la fois pour les rivières et les fleuves qui vont se jeter dans la Manche et également les rivières et les fleuves qui vont se jeter dans l'Atlantique. Donc tête de bassin versant, on va avoir beaucoup de rivières qui vont prendre naissance sur notre territoire et que si en amont de ce réseau on ne fait pas les actions nécessaires pour préserver la ressource en eau, que ce soit au niveau de la qualité ou de la quantité, et ben ça va affecter l'ensemble du réseau hydropéphrique. Donc, en quelques images, si vous êtes jamais allé sur le parc Normandie-Maine, voilà, vous avez quelques images de ce territoire. Donc, un territoire très chaotique, très géologique, entre guillemets. On va avoir des zones de marais temporaires. Donc, la photo un peu inondée, c'est un paysage habituel du parc Normandie-Maine. Hein. Tout le monde est aujourd'hui joue avec ces débordements d'eau, ces prairies alluviales. Des territoires quand même qui sont des communes qui sont très très rurales et aussi un patrimoine autour du verger, du bocage. Je ne sais pas si certains connaissent le Calvados d'Onfronté ou le Poiret d'Onfronté, appellation d'origine protégée sur le parc Normandie-Maine. Et comme on parle de biodiversité, c'est aussi des espèces. Donc il y a aujourd'hui au parc Normandie-Maine, vous avez une quarantaine d'agents qui vont travailler sur diverses thématiques. La protection de la biodiversité et de leurs habitats, bien sûr, mais on va avoir des urbanistes, des personnes qui vont travailler sur l'agriculture, des personnes qui vont travailler sur l'éducation et l'environnement, comme moi-même. Donc, une multitude de salariés qui vont travailler sur sujets bien, bien diversifiés et forcément sur la biodiversité avec des espèces patrimoniales protégées sur lesquelles on mène à la fois des projets de préservation et de réintroduction, mais également des projets éducatifs pour sensibiliser les jeunes et les habitants sur le patrimoine naturel de leur territoire et savoir le préserver, ce patrimoine-là. S'il y a des questions, je répondrai sur le parc Normandie-Maine. Alors, avant de me lancer dans les défis familles, il faut savoir que ces défis familles, ils ont été mis en place dans le cadre des atlas de la biodiversité communaux. On en a parlé un peu. Ce sont des projets qui sont montés, mis à disposition entre guillemets par l'OFB. Donc on en a également parlé, donc je ne reviens pas dessus. Aujourd'hui, voilà, le parc est très attaché à ces ABC puisque ça permet à la fois, du coup, d'améliorer la connaissance, donc de faire différents inventaires sur ces territoires-là. Donc généralement, on intervient à l'échelle de communautés de communes sans forcer la main à aucune commune. C'est-à-dire que si on a une commune dans une communauté de communes, dans une com-com, qui ne veut pas participer à ces ABC, on ne la force pas. Donc améliorer la connaissance aide à la décision des élus, notamment sur les documents d'urbanisme, c'est-à-dire identifier les secteurs sensibles de préservation de la biodiversité sur lesquels il ne faut en tout cas pas notamment arracher des bocagères, urbaniser, imperméabiliser les sols, etc. Et le dernier volet, c'est la sensibilisation des habitants et des acteurs, ce qui va m'amener du coup à vous présenter donc, ces fameux défis famille à biodiversité positive. Donc, dans les ABC, on a la sensibilisation un peu classique, c'est-à-dire la sortie naturaliste à la découverte des amphibiens, la conférence autour de l'impact du bocage sur nos paysages et la biodiversité. Et l'idée, c'est aussi de proposer et d'initier des projets un peu différents, un peu novateurs et qui pourraient avoir des échos plus importants dans ces projets ABC ou sur les projets de territoire. Donc c'est notamment le cas des défis familles qui s'inspirent des défis familles à énergie positive. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Ça a déjà plusieurs années maintenant, aujourd'hui. Mais l'idée, c'était d'inviter un certain nombre de familles s'investir sur l'espace d'une année sur l'accueil de la biodiversité dans leur jardin. Donc ces familles-là, elles sont invitées régulièrement alors, à travers 5 défis durant l'année donc à réaliser et à mettre en pratique dans leur jardin. Donc vous les avez. J'ai mis en premier le défi botanique, qui est le défi le plus important, puisqu'on parle vraiment de remettre du sauvage dans les jardins. On reste un territoire à forte dominante rurale, mais ça n'empêche qu'on a parfois des jardins qui sont assez stériles en termes de biodiversité, où c'est juste de la pelouse, une balançoire, et puis de chaque côté, des haies de thuya. On est d'accord que ce n'est pas très, très accueillant en termes pour la biodiversité. Donc on essaye aussi de voir avec eux ce qui est possible de faire, par exemple de mettre des zones de pelouse à fauche tardive, ou en tout cas tout simplement de ressemer des plantes sauvages pour accueillir un peu plus de pollinisateurs, de biodiversité, etc. Donc un défi autour de la botanique, un autour des oiseaux, des insectes, des amphibiens, des mammifères. Et à chaque fois, donc, du coup, on présente un peu les différentes espèces qui seraient susceptibles d'être observées dans ces jardins-là et comment on met en place des comportements ou des aménagements pour accueillir ces espèces. Alors ça peut être des choses très 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 simples, comme un nichoir qui permet du coup à des espèces de se reproduire, de nidifier. Et ça peut être des choses un peu plus complexes, comme notamment la mise en place d'une fauche tardive. Quand je dis complexe, c'est le regard un peu sociologique que les gens vont avoir sur un jardin qui pourrait être perçu comme sale parce qu'on voit des graminées, des marguerites pousser dans un fond de jardin, etc. Donc il y a des choses parfois qui font appel à des préjugés ou à des sentiments qui sont très humains et qu'on essaye de combattre malheureusement. Donc généralement, à chaque fois qu'on a des familles qui s'inscrivent dans ces défis-là, on fait une évaluation avant le lancement des projets, des premiers défis, et une évaluation à la fin des défis. Cette évaluation permet de déjà faire un premier état des lieux du potentiel accueillant des jardins. Il y a certaines familles, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Le jardin est déjà naturellement accueillant. Donc ces familles-là, on leur explique que ce qu'ils vont voir pendant les défis, c'est des choses qu'ils mettent déjà en pratique dans leur jardin. À l'inverse, on va avoir des jardins qui sont totalement stériles, où tout est finalement à faire en termes d'accueil de la biodiversité. L'évaluation de fin des défis, c'est justement pour voir s'il y a eu des comportements qui ont évolué, si les aménagements qui ont été construits pendant les défis ont bien été installés. Quand je dis bien été installés, c'est est-ce qu'ils ont bien été orientés, mis à la bonne hauteur, est-ce que finalement ces refuges ne sont pas plutôt des pièges que des refuges, ça peut être le cas aussi. Et ensuite, c'est aussi de voir un peu quelle est la poursuite à la fin de ces défis-là, parce qu'on les accompagne pendant une année et au bout d'une année, on leur lâche la main. Mais de voir aussi si ils ont le sentiment que ce qu'ils ont fait a permis d'accueillir plus de biodiversité et s'ils souhaitent se lancer dans plus de choses derrière. Il y a également une notion d'observation des espèces qui seraient amenées dans le jardin. Donc on les incite fortement à nous transmettre toutes les observations qu'ils peuvent faire dans leur jardin. Donc quand je dis transmettre, c'est vraiment sur photo. Parce que parfois on nous transmet des données de loutres d'Europe qui sont en fait des ragondins, dans un marche-pas. Donc sur photo, on valide les observations qui sont faites dans les jardins, et ces données-là ne partent pas comme ça dans la nature, elles permettent aussi d'alimenter un observatoire, et le projet notamment des ABC qui est vraiment de retransmettre la présence des espèces sur leur territoire. Et donc cet ABC, cet observatoire, il est actuellement en ligne, il s'appelle Biodiv Normandie Maine. Et il suit un projet de récolte de données qui s'appelle GéoNature, qui a été mis en place par le Parc National des Écrins, et qui est aujourd'hui assez populaire et qui a été appliqué dans pas mal de territoires, qu'ils soient parcs naturels régionaux ou même des communes ou des régions. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'asseoir.
Eh bien, merci Monsieur Debrasse pour cette présentation générale. Vous inquiétez pas, messieurs, dames, ce n'est pas fini. On va avoir quelques questions, notamment, par exemple, au niveau du public visé. Est-ce qu'il y a seulement les familles ou est-ce que vous travaillez peut-être avec un autre public? Je sais qu'on avait évoqué les scolaires un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Du coup, c'est ce que je disais, c'est que ces projets ABC ont une forte partie sur la sensibilisation des habitants et des plus jeunes. Donc forcément, on va monter également des projets pédagogiques autour de l'accueil de la biodiversité dans les écoles. C'est quelque chose qui prend beaucoup, de plus en plus d'ampleur, avec notamment renaturaliser les écoles, faire en sorte que ces écoles ne soient plus des des terrains bitumés où la chaleur s'accumule durant l'été, où en fait on ne peut pas sortir les enfants parce qu'en fait il fait trop chaud finalement dans les cours de récré. Donc ça va aussi dans ce sens-là de pouvoir remettre de la verdure dans les écoles, et ça va plus loin, c'est aussi apprendre aux élèves d'observer les différentes espèces qui seraient dans la cour de récré. Il y a encore 2 jours, on m'a transmis une donnée de triton crêté dans la cour de récré. Il y a quelques années, peut-être que ce triton crêté, il serait fait complètement écrabouiller, sauf que les élèves qui l'ont découvert ont été sensibilisés sur le fait que c'est une espèce protégée et qu'on n'écrabouille pas les espèces protégées qui seraient amenées à aller dans les écoles. Donc, protégées ou pas protégées, tout à fait. Donc du coup, ces défis famille vont au-delà de vraiment le cadre familial. On essaye de sensibiliser aussi les plus jeunes, mais la notion famille est importante. On s'aperçoit qu'on ne met pas de barrière sur le fait qu'une famille monoparentale ne peut pas participer aux défis famille. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai que souvent, les familles qui s'inscrivent dans ces défis-là sont des familles avec des enfants et qu'elles ont la sensibilité de vouloir apprendre à leurs enfants à observer un peu plus la nature, les espèces, et apprendre à un peu plus les reconnaître et même les respecter. Des choses que peut-être que eux, enfants, n'ont pas eues avec leurs parents en termes de sensibilité par rapport à ça.
Très bien. Et pour l'année 2022, par exemple, vous aviez combien de familles qui s'étaient inscrites pour le défi ?
Alors, généralement, on part pour un animateur pour 15 familles. Pourquoi ce chiffre est assez bas ? Parce que lorsque vous avez les 15 familles qui construisent des refuges à crapauds ou des refuges dans une salle avec des marteaux, etc., c'est un peu difficile d'être un peu partout à la fois. Néanmoins, ça n'empêche qu'on sollicite aussi différents acteurs pour nous accompagner et pour prendre plus de familles. On a notamment mis dans la boucle des BTS-GPN qui généralement sont des formations avec des périodes de projets tutorés où voilà, on leur apprend à aussi communiquer avec les habitants sur la biodiversité, sur la gestion des espaces naturels, etc. Donc on avait mis dans la boucle 4 étudiants qui ont pris aussi à leur charge 15 familles pour démultiplier un peu ce nombre-là. Alors c'est vrai que 15 familles à l'échelle de 4 ou 5 communes, c'est très peu. On mise un peu sur le côté porte-étendard ensuite de ces familles. Souvent, les familles qui se sont inscrites nous demandent si d'autres familles peuvent intégrer le projet. On leur explique que c'est un peu compliqué, mais on voit bien qu'il y a une communication qui est faite avec d'autres familles, qu'ils expliquent un peu ce qu'ils font à chaque défi et ce qu'ils mettent en place dans leur jardin. Donc il y a un peu cette notion un peu porte-étendard, et ça fait aussi connaître le projet ABC. Parce que tout est tourné autour de la communication. La communication, c'est un prisme fondamental pour faire connaître un peu ce que chaque structure font autour de la biodiversité. S'il n'y a pas de communication, les habitants ne comprennent pas concrètement pourquoi il y a un farfelu avec un phallia papillon derrière leur jardin en train de capturer des papillons. Donc la communication est importante, et les défis familles est finalement un volet de communication important pour faire connaître tout ce qu'on fait.
Oui, au final, c'est vraiment un relais où les gens peuvent pratiquer après le bouche à oreille pour justement faire en sorte que le défi soit connu et qu'ils puissent transmettre justement le fait de savoir construire un nichoir ou de savoir que la biodiversité peut venir aussi dans leur jardin.
Tout à fait. Et puis ça s'essaime aussi auprès des élus. Je sais qu'on avait une commune au final où les défis familles avaient été... C'était fait connaître par différents habitants et ils l'avaient fait connaître auprès de leurs élus communaux. Et je sais qu'au final, cette commune a décidé d'offrir à chaque enfant du village... Alors, je vous rassure, c'est des tout petits villages. Donc, on parle de 120 habitants parfois. Donc, chaque enfant du village, c'est peut-être 30 enfants, quoi. Mais à chaque enfant, du coup, un nichoir à oiseaux qui construisait. Donc, il y avait une vraie réunion avec tous les habitants, avec vraiment la construction de 30 nichoirs et l'installation de ces nichoirs sur l'ensemble de la commune, pas uniquement dans les jardins, etc. Donc... ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas organisé du tout, mais qui a vu le jour parce qu'on a fait faire connaître ce projet de défi famille auprès des élus, etc.
Et d'un point de vue historique, pour continuer un petit peu sur le sujet, le parc Normandie-Maine était un peu un territoire test pour ce défi. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet ?
En fait, on essaye toujours de réinventer la mobilisation citoyenne autour de la biodiversité. Donc à chaque fois, on se met autour d'une table et on essaye de voir comment on peut impliquer les habitants autour de l'accueil de la biodiversité. C'est vrai que là, ce que je viens de vous présenter, ça ne va pas révolutionner la planète. Quand on parle d'installation de nichoirs à oiseaux, de refuges à crapauds, de quelques marguerites qui poussent dans le fond d'un jardin. Nous, ce qu'on voit avant tout, c'est la mobilisation citoyenne qui peut y avoir derrière ça. Donc on a réfléchi à ces fameux défis famille. On était un peu le territoire test. Donc les premiers défis famille, ils ont eu lieu en 2018. On était le premier territoire test au sein des réseaux des parcs naturels régionaux pour monter ça. Le bilan a été exposé auprès du réseau et aujourd'hui, vous avez vraiment un projet de réseau avec plusieurs territoires, plusieurs parcs qui se sont imprégnés de ces défis et qui vont au-delà de ce que nous, on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez vraiment des défis famille qui sont à la replantation de vergers, à la replantation du bocage dans le paysage, des défis famille qui vont vraiment mêler aussi le côté culturel, etc. Donc c'est vrai que nous, on s'est un peu arrêté sur le côté très accueil de la biodiversité, mais aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour de l'impact des familles sur la biodiversité. Ça va aussi de la récurrence de prendre sa voiture pour faire de petits trajets, ça va avoir un impact possiblement sur la biodiversité. Donc ces défis familles-là ont pris de l'ampleur et sont mis en place aujourd'hui dans une dizaine de parcs naturels régionaux qui se sont approprié ce concept-là et qui aujourd'hui va de plus en plus voir le jour dans différents territoires.
Justement, du coup, ces territoires, ces autres parcs, en fait, ils font aussi la présentation de nouveaux éco-gestes. Donc là, on voit bien que le défi va plus loin que justement accueillir la biodiversité dans son jardin. Mmh. Et ça m'amène vers ma dernière question, ça serait quel avenir pour le défi famille à biodiversité positive pour le parc Normandie-Maine ? Quelles seraient les ambitions que vous aimeriez voir venir ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les années à venir ?
Effectivement, aujourd'hui, comme vous disiez, les défis famille vont au-delà de juste mettre des refuges et des accueils de la biodiversité. C'est les éco-gestes qu'on peut avoir pour éviter d'avoir un impact sur l'érosion de la biodiversité sur notre territoire. Aujourd'hui, nous, on a décidé de faire évoluer nos défis famille, qui étaient en fait des projets qui étaient quand même très, très chronophages, où on arrivait à impliquer quand même peu d'habitants, même si au final, les retours étaient quand même très, très bons et où on avait une communication et un retour vraiment très, très intéressant. On va les faire évoluer plus sur, finalement, cultiver le sauvage, que ce soit dans les jardins, voire même dans les collectivités. L'été dernier, on avait des communes qui étaient contraintes de ne plus arroser leur parterre parce que du coup, la ressource en eau était importante. Certaines communes jouaient le jeu, d'autres pas forcément. Aujourd'hui, le raisonnement, ce serait plutôt de se dire quelles seraient les essences ou les espèces qu'on pourrait mettre dans des parterres communaux qui ne nécessiteraient pas d'avoir d'arrosage derrière. Est-ce que ça passerait pas par un retour de vivaces ou de plantes annuelles sauvages locales, à contrario des espèces horticoles qui sont beaucoup plus gourmandes en eau, etc. Donc ça, c'est plus en lien avec les collectivités, mais ça passe aussi dans faire évoluer le regard des êtres humains sur l'accueil des espèces sauvages dans son jardin. Avoir un bout de pelouse qu'on laisse pousser naturellement pour voir quelles sont les différentes espèces de fleurs qui vont émerger et voir aussi ce que ça peut apporter en termes de pollinisateurs, en termes de prédateurs de ces pollinisateurs, etc. C'est important. Donc, du coup, l'évolution des défis famille, ça va être un protocole de pelouse sauvage, entre guillemets, où on va essayer de voir la qualité de la banque de graines dans les pelouses. C'est un peu notre prétexte pour le faire, mais on va vraiment faire un vrai protocole pour voir quelles sont les variétés qui poussent lorsqu'on laisse pousser un bout de pelouse, si on a vraiment une flore diversifiée avec une multitude d'espèces, ou si on a uniquement que de la graminée. Et après, c'est de voir aussi si on n'a pas moyen de réapporter dans ce sol des semences qui permettraient des semences toujours locales et sauvages, hein, qui permettraient de faire revenir ces espèces-là qui normalement poussent à l'état naturel et qui permettraient d'accueillir toujours plus de biodiversité, que ce soit flore, parce que là on parle uniquement de la flore, mais aussi de la faune, du coup.
Très bien. Au final, en fait, ces défis-là servent aussi, ont aussi un gros impact sur l'aspect aussi sociologique aussi, parce que vous travaillez aussi avec tout ce qui a intergénérationnel, que ce soit donc des familles avec des personnes adultes, mais aussi des enfants. Comme on disait tout à l'heure, c'est aussi intéressant de travailler avec les plus jeunes pour justement ancrer des habitudes, apprendre et transmettre des savoirs grâce aux défis.
Donc là, actuellement, dans les ABC qu'on a menés, il y a eu tout un projet sociologique mené auprès des habitants, mené par des cabinets un peu indépendants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retours de projets. Je vous donne un exemple un peu type. J'ai aussi la mission d'accompagnement des communes sur la gestion écologique des cimetières. Parce que du coup, depuis le début d'année, je vous rappelle, on a interdiction d'utiliser de produits phytosanitaires dans les cimetières. On a beaucoup de retours d'expérience, de végétalisation de cimetières, notamment dans les grandes agglomérations, que ce soit Paris, que ce soit Caen notamment, que ce soit Rennes, etc. Donc des cimetières qui sont quand même très, très végétalisés, très arborés souvent. Et en fait, on s'aperçoit que ces modèles-là sont difficilement applicables dans les cimetières communaux de chez nous, pas parce que c'est complexe à mettre en place, parce que sociologiquement, les habitants sont très réfractaires dans les espaces très ruraux, hein, comme ça, à revoir du végétal, du sauvage dans les cimetières. Le sauvage, il est déjà sur les talus, il est déjà sur les bords de champs, il y en a partout, on ne veut pas le voir dans les cimetières. Donc en fait, il y a vraiment, avant de mener des projets, de se dire il faut remettre du sauvage partout, il faut remettre de la flore partout, il y a un vrai travail sociologique à mettre en place pour voir, pour désamorcer justement des projets qui pourraient être très conflictuels, hein, et de voir quels seraient les biais, ou en tout cas quelle serait la sensibilisation qui est nécessaire pour mettre en place ce genre de choses. Donc le travail de remettre, de cultiver des sauvages dans les communes ou dans les jardins, ça passe avant tout aussi par un aspect sociologique. C'est tout simplement de se dire, est-ce que les gens sont prêts à voir ça ou à le faire, en fait, tout simplement.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Dobras, pour cette présentation. Donc je crois qu'on a un petit peu le temps pour faire quelques questions, il me semble. Peut-être une ou deux questions, monsieur...
Merci, j'ai très bonne expérience, très bonne initiative, ces aspects de famille. J'ai deux questions. La première, est-ce qu'il n'y a pas des déceptions par rapport à des résultats? Exemple, on met un nichoir, il n'y a pas d'oiseaux, on met un nichoir à chauve-souris, il n'y a pas de chauve-souris. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des déceptions? Et donc, est-ce que par rapport à ces déceptions, est-ce que vous avez une stratégie de se dire, plutôt que de laisser pousser uniquement la pelouse, on va inciter à planter des plantes qui attirent les papillons, parce qu'il y aura un résultat direct qui sera visible? Voilà, comment, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est sur, vous dites au bout d'un an, vous ne les encadrez plus, est-ce que vous avez un lien malgré tout, un bulletin d'information, un rassemblement, je ne sais pas, pour maintenir quand même une dynamique, pas les laisser tomber du jour au lendemain, quoi, entre guillemets?
Alors, sur la première question, du coup, on n'a pas forcément de déception, parce que ce qu'on leur explique aussi avant de mener les défis, c'est que, entre guillemets, on va perturber les habitudes du jardin, et le temps que les espèces comprennent qu'en fait, finalement, il y a des aménagements plus accueillants pour eux, ça peut prendre une année, deux années, voire même trois années, etc. Souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on explique aux gens que ce qui serait intéressant, c'est de mettre un refuge à hérissons dans leur jardin. Donc un refuge à hérissons, concrètement, c'est un tas de bois creux d'intérieur qui pourrait être investi par un hérisson. Et ben, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas les hérissons qui viennent dans le tas de bois, mais ça va être des salamandres, ça va être d'autres espèces. Donc parfois, en fait, ils s'attendent à avoir des espèces parce qu'ils ont mis l'aménagement qu'il fallait, mais c'est d'autres espèces qui vont s'installer parce qu'on a mis un tas de pierres, un tas de bois, etc. etc. Donc là, pour le moment, on n'a pas eu trop de retours de déception. C'est vrai que c'est généralement dans l'évaluation des jardins, on leur explique, on leur demande, on leur pose cette question. Quelles seraient les espèces que vous aimeriez voir dans votre jardin? Dans le tome 3, il y a le hérisson. Le hérisson, il est toujours dans le top 3. Ils veulent vraiment voir un hérisson, avoir un hérisson dans leur jardin. On sait bien aujourd'hui un peu comment sont les populations de hérissons. Ils sont plutôt en chute libre, très impactés par le réseau routier, par l'urbanisation, etc. Donc c'est pas simple. Mais derrière, en fait, il y a d'autres espèces qui viennent dans leur jardin et qui investissent ces aménagements-là. Et la deuxième question, je l'ai perdue, c'était... Ah oui, c'est ça. Donc on leur lâche la main au bout d'une année. Souvent, on a toujours du contact avec eux via le fameux relais des observations. Je vous expliquais, hein, donc ils ont en gros trois grandes missions. Changer les comportements dans leur jardin pour faire en sorte d'avoir plus de biodiversité dans le jardin. assister au défi et mettre en place les aménagements réalisés durant le défi, et transmettre des observations naturalistes. Les deux premiers, bon, bah, du coup, une fois que c'est fait, c'est à eux de poursuivre leur comportement ou d'entretenir leurs aménagements. Le troisième, ils continuent à le faire parfois. C'est-à-dire, on continue à recevoir des mails. « Ah, j'ai revu cette espèce-là, je vous la signale parce qu'on avait l'habitude de le faire durant les défis famille, etc. » C'est par ce biais-là, du coup, qu'on a un contact. C'est vrai que pendant 2 ans, on a une newsletter dans le cadre des ABC qui les informe régulièrement que sur la commune, il va y avoir une conférence comme ça, etc. Une fois que l'ABC est terminée, la newsletter est terminée. Il y a toujours la newsletter du parc sur laquelle ils peuvent s'inscrire. Il y a le site internet du parc, mais généralement, c'est des informations qu'ils doivent aller chercher. On ne leur donne pas... Donc c'est vrai qu'une fois qu'on leur lâche la main, ils peuvent continuer à communiquer avec nous via ces observations, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu isolés, indépendants.
Très bien, j'espère que ça aura répondu à votre question. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Debrois. Je vous invite à regagner votre siège, puisque merci. Maintenant, j'invite du coup ma camarade Fantine à me rejoindre. Donc, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur comment inviter la biodiversité dans vos jardins. Donc, n'hésitez pas à fabriquer votre propre nichoir. Donc, merci Fantine. Donc, je te laisse la parole. Tu participeras avec Monsieur Boris Bayeul pour présenter, qui sera le cofondateur, de l'école UPA, pour présenter la deuxième initiative territoriale.
Merci Colline. Donc j'invite Monsieur Boris Bayeul à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour présenter l'écolieu PAA. Dans un premier temps, Monsieur Bayeul, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je pense qu'on est plusieurs dans la salle à se poser cette question. PAA, qu'est-ce que c'est? Donc je vous laisse nous présenter, s'il vous plaît.
Bonjour, tout le monde entend bien. Ouais. Et puis merci aussi pour l'invitation aux étudiants, étudiantes et aux organisateurs, intervenants et puis enseignants. Voilà. Et merci pour la qualité des interventions avant moi. Je ne sais pas ce que ça va être tout de suite, mais pour ce qui s'est passé avant, j'ai beaucoup apprécié les contenus. Donc voilà, pour l'écolieu PAA. Alors déjà PAA, peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire PAA? Pour la petite histoire, PAA, ça se prononce Bahora en Lakota. Lakota, c'est une langue Sioux, et ça veut dire colline. Et on est installé en haut d'une colline, en Suisse normande. Et pourquoi avoir pris un nom d'Indien? Parce que concrètement, on nous traitait, entre guillemets, d'Indien quand on est arrivé. Et donc, on a joué le jeu, on a dit, on va aller jusqu'au bout de ça, et on va prendre un nom d'Indien, aussi un peu en hommage à toutes ces populations qui sont passées sur Terre, sans forcément tout saccager. Donc voilà. Ça, c'est pour le clin d'œil. Alors maintenant, un écolieu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a pas encore vraiment de définition ou d'encadrement de ce que peut être un écolieu en France. Il y a beaucoup de réseaux. Il y a les réseaux Oasis de Pierre Rabhi. Il y a des réseaux divers et variés, des initiatives privées, associatives, publiques, etc. Alors publiques ou semi-publiques, en lien avec des communes notamment. Mais derrière un écolieu, on peut avoir beaucoup de formes différentes. Nous, on n'est pas un éco-hameau ou un éco-village, par exemple, au sens où on est arrivé sur un terrain nu, qui était une prairie avant, constructible pour partie, et on y a construit notre maison. Et voilà, on a voulu dédier, consacrer ce lieu à la biodiversité en priorité, donc voilà, en lien avec le thème, mais pas que en lien avec la biodiversité, parce que Ce qui s'est passé, alors là, je suis un petit peu obligé de parler de moi, enfin en tout cas de mon cheminement. J'interviens à l'Université de Caen en transition écologique depuis 2004 maintenant, donc à l'IUT de bio, génie de l'environnement, sur les questions de transition écologique, d'histoire des idées, de développement durable, etc. Et puis j'ai travaillé pour différents territoires en Isère, en Loire-Atlantique et autres. Et progressivement, au fur et à mesure des interventions, des conférences, des formations, j'étais toujours ramené soit à la pause café, soit après sur oui, non, mais ça c'est bien, les livres c'est bien, mais et vous, vous faites quoi? Vous faites comment? Vous avez des toilettes sèches? Comment? Enfin, voilà. Et on venait tout de suite sur le concret, sur le style de vie. Et avec les étudiants également, j'étais toujours interrogé à la marge, mais ça paraissait très intéressant ou important pour eux, sur oui, mais comment on vit, comment on fait pour vivre? Alors, si ce n'est en adéquation avec ces valeurs-là, mais en tout cas en essayant de limiter nos impacts sur, le, sur l'environnement, ou alors d'avoir même des impacts positifs dessus. Et donc, quand on a pu avoir accès au foncier, ce qui n'est pas forcément simple, bon, ça m'est arrivé un peu tard, mais j'ai eu la chance de pouvoir accéder au foncier. Ça a été une sorte d'évidence de se dire, bon, bah, voilà, ça va être un support de cours. Ça va être un support aussi, on va être transparent, c'est un projet de famille. Hein. S'il n'y avait pas eu l'adhésion de ma compagne, pour ça, ça n'aurait pas fonctionné, des enfants non plus. Donc tout le monde est embarqué un peu dans cette aventure et on s'est dit qu'on allait être complètement transparent avec notre transition écologique à nous. Alors non pas pour dire qu'on est exemplaire, parce que ce n'est pas le cas, mais pour montrer justement toutes nos erreurs, toutes les difficultés qu'on peut avoir parfois à présenter des évolutions de style de vie à nos proches. Je parlais des toilettes sèches rapidement, c'est assez clivant les toilettes sèches en France encore. Il y a beaucoup de sujets clivants comme ça. On a fait notre bilan carbone. Alors, peut-être qu'on peut. Ah, ben, c'est très bien. Il y a les limites planétaires qui sont affichées. La biodiversité, c'est une partie très importante et sous-médiatisée, à mon sens, mais en tout cas, c'est une partie du problème systémique global. Ce qui est très, très médiatisé en ce moment, c'est le climat. Et pour donner juste un chiffre, on a le réseau Oasis dont je parlais des écolieux a fait une étude l'année dernière sur le bilan carbone moyen des écolieux en France. Alors, petit rappel peut-être, le bilan carbone d'un Français moyen, est-ce que vous savez combien c'est de tonnes Ouais, c'est ça. Il y a des très bonnes réponses partout. Donc c'est entre 9 et 10 tonnes de CO2 par an et par personne. Donc les accords de Paris qui avaient été signés par notre président, c'était de passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Donc on n'y est pas encore, hein, c'est divisé par 4. Et les 25 écolieux du réseau Oasis, en moyenne, sont à 5 tonnes. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'ils atteignent déjà le bilan carbone fixé par les accords de Paris, mais non, ils ont encore des efforts eux-mêmes à faire. Et nous, notre bilan carbone à l'écolieu PAA, il est entre 2 et 4 tonnes. Alors je vais dire expliquer pourquoi il y a autant de marge d'erreur. On l'a fait avec l'Université de Caen et on n'est pas tous d'accord sur la méthode. Donc on a pris une grande marge de manœuvre, enfin une grande fourchette, pour expliquer que selon les méthodes aussi de calcul, on peut minimiser notre bilan carbone Alors, on peut dire qu'on est à 4 tonnes si on veut, et on continue cette transition un peu exposée à tous ceux qui souhaitent s'y intéresser, parce que ça permet d'être un peu crash test ou punching ball pour ceux qui veulent poser des questions et demander, critiquer, etc. Voilà, on est ouvert à ça pour expliquer comment on peut faire descendre encore ce bilan carbone. Mais par rapport à la biodiversité et au sujet qui nous occupe nous le plus et qui est en lien avec cette matinée. On a parlé beaucoup de changement de regard ce matin, je trouve, sur la question. On a tous conscience qu'il y a un problème avec cette biodiversité, avec l'effondrement, mais on n'a pas forcément en décalage avec ce qu'on nous dit dans les médias de masse, par exemple, ou la manière dont on a de présenter la biodiversité, où on se met toujours à côté, pas dedans. Ça a été rappelé plusieurs fois ce matin qu'on est dedans, dépendant, etc. Mais finalement, beaucoup de personnes sont assez déconnectées de tout ça. Et dans la société connectée, c'est un peu drôle, quoi. Mais par exemple, pour reprendre l'idée tout à l'heure de la fauche tardive, j'entendais le mot fauche tardive, à l'écolieu PAA, on ne fait pas de fauche du tout. Et il y a une très, très grande différence entre une fauche tardive dans l'année et pas de fauche du tout. On n'a aucun outil. Alors il y a un hectare de terrain, c'est pas grand, mais enfin pas grand. À Caen c'est grand, en Suisse normande c'est pas très grand. Mais il n'y a pas du tout d'engin mécanisé. Donc la trame verte ou la trame bleue, c'est quand on parle de changement de regard, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes êtres humains entre guillemets, qui sommes dans la trame. C'est-à-dire qu'on entretient nos allées comme des coulées de sangliers, si vous voulez. Et puis, on n'entretient pas le reste, c'est-à-dire que le reste, c'est en libre évolution. Et ça nous paraît important de faire de l'immersion par rapport à ça et d'attirer différents publics pour se rendre compte que parfois, les mots sont trompeurs, la manière dont on a été éduqué ou ce qu'on entend à la radio, à la télé, parfois, c'est trompeur. Et que quand on est par exemple, sur un terrain où il n'y a pas de fauche du tout, non, l'herbe ne continue pas de pousser. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est comme une respiration. Elle monte à quasiment 2 mètres l'été, et puis, enfin, au tout début d'été, et puis après, l'hiver, bah, ça redescend. Et ça, il faut ne pas faucher pour s'en rendre compte. Même si on fauche une fois, on ne peut pas se rendre compte de ce genre de choses. Donc voilà, c'est un petit exemple. On peut peut-être passer... Alors vous aviez vu une photo à gauche, juste là, d'une partie du terrain où on a beaucoup de ronciers, on a beaucoup de... Alors c'est pareil, les ronciers, il y a une très mauvaise image des ronciers, mais c'est très important, c'est le berceau de la forêt. Hein. Et donc voilà, on attire l'attention là-dessus. Peut-être qu'il y a d'autres photos. Elles sont après, alors hop, après, s'il vous plaît. Alors ça, c'est juste, moi, j'ai l'impression qu'elles sont un peu écrasées, les photos, mais c'est pas grave. Non, je veux bien revenir à celle d'avant. Merci. Ça, c'est aussi pour expliquer Alors déjà, pour dire qu'Elsa, qui est ma compagne, avec qui ça serait pas possible, en fait, voilà, elle vous dit bonjour, elle pouvait pas être là ce matin. Et puis, sinon, c'est aussi pour expliquer que, en tant qu'être humain, on a plein de défauts et on veut toujours, on a plein d'idées sur comment on projette les aménagements, même en voulant faire bien. Et on voulait faire très bien en se disant, tiens, on va travailler avec le conservatoire de la Baignoire, on va pouvoir implanter des ruchers en étant le moins exploitant possible et en prenant parfois du miel. Et donc on a commencé à construire des ruches. Finalement, au bout d'un an, et heureusement, on a rencontré plein de monde, parce qu'encore une fois, l'écolieu, c'est un lieu, mais il n'y a pas que nous derrière, il y a plein d'associations qui travaillent avec nous, il y a des collectivités, on croise plein de gens, et on lit aussi, et on a pu être en relation notamment avec l'association Planète Abeille, qui est en Suisse normande aussi, et Les Petites Ruches, qui est une personne, Céline Locqueville, qui a écrit un livre qui s'appelle Ruche Refuge. Et c'est au contact de ces personnes-là, en fait, qu'on s'est aperçu que la priorité aujourd'hui, en tout cas à notre échelle et par rapport au lieu, c'était pas de produire du miel, même une fois ou deux dans tous les 5 ans, par exemple. C'était plutôt déjà d'accueillir les abeilles et surtout de communiquer, parce que comme on a des visiteurs, comme on a des personnes qui viennent en atelier pour la permaculture et autres, ça pouvait paraître important d'avoir un outil pédagogique qui marque un peu les gens et qui permettent de parler du sort des abeilles. Et donc, on a transformé, vous voyez, les 3 ruches à côté, et puis après, les ruches un an plus tard. Donc, où on a... Évidemment, il n'y a jamais eu de cadre dedans. L'intérieur a été modifié pour être plus organique, plus isolé, pour davantage ressembler d'ailleurs à l'habitat naturel qui est le tronc creux. Et puis, on a au bout, à droite, là, vous voyez un petit peu une ruche refuge qui nous avait été aussi... offerte par Céline Locqueville par rapport à son association. Donc pour, alors c'est une sorte d'hôtel à insectes pour les abeilles, mais écologiquement on en connaît bien les limites. Hein. L'objectif c'est pas de se dire que on va accueillir les abeilles ici et pas ailleurs. Ça c'est plutôt pour les humains, pour parler entre nous et pour dire que c'est important. Maintenant ça nous permet aussi de rebondir et de montrer les arbres sur le terrain qui sont parfois morts et qu'on a laissés sur pied, qu'on ne coupe pas, et qui sont les vrais habitats, finalement, des abeilles. Donc, ça nous permet de faire ce pont-là entre l'intérêt d'un hôtel à insectes, qui peut se justifier dans certains territoires, et qui, ici, en réalité, ne se justifie pas forcément là où on habite, mais qui est un premier pas vers, après, les habitats naturels qu'on va faire, qu'on va avoir sur la pointe des pieds, quoi. Voilà.
Pardon, j'ai peut-être une petite question pour vous. Donc, oui. Je sais que vous avez travaillé du moins sur le biais cognitif ou peut-être en général sur le fait que le problème soit pris à l'envers ou peut-être la mauvaise information. Donc je voulais savoir, on avait parlé ensemble d'espèces un petit peu délaissées ou de discrimination. Donc quelle sensibilisation vous mettez en place sur ça? Parce que je sais que vous tenez beaucoup au fait que la biodiversité soit prise dans son ensemble et qu'on arrête de se focaliser sur des espèces emblématiques ou des choses comme ça.
Ouais. Bah, ça fait bien le lien justement avec les abeilles, parce que quand on parle des abeilles, on parle aussi des frelons, des guêpes. Il y a beaucoup de nids de guêpes et de nids de frelons à l'écolieu. Alors quand on dit ça, on se dit on se prive de visiteurs, mais bon, tant pis. Et justement, ceux qui veulent bien venir nous voir, on va les emmener auprès des nids, alors évidemment sans déranger non plus les populations, mais pour montrer justement qu'on peut cohabiter avec ces espèces-là et dédramatiser un petit peu toutes les appréhensions, l'image qu'on peut en avoir. La société a quand même une assez mauvaise image déjà de toutes les espèces végétales pionnières, orties, chardons, ronces. Si vous avez les trois dans votre jardin, vous êtes bien vu. Et puis, parce que ça prolifère, attention. Et puis après, évidemment, tout ce qui pique, les moustiques, voilà. Donc nous, on a fait des mares, donc c'est pareil, il y a toute une discussion sur les... On parle beaucoup des moustiques, des guêpes, des frelons. Et puis, on a la sensation, mais alors ça, c'est pas mon point de vue personnel, c'est à force d'être confronté justement en formation, en conférence ou autre avec différents professionnels ou du grand public, que ces questions, alors c'est pas qu'elles sont prises à l'envers, c'est que finalement, si je prends simplement le cas de la guêpe, on va avoir l'impression que ça rend moins de services écosystémiques, par exemple. Donc ça, c'est une image, c'est une idée qu'on a, hein. C'est pas du tout avéré, mais c'est l'idée qu'on s'en fait par rapport à l'abeille. Où l'abeille, tout de suite, on comprend, on dit que ça pollinise, mais finalement, on comprend mal, et c'est mal diffusé dans les médias, que s'il n'y avait pas de guêpe, l'abeille aussi peut s'effondrer, et que la guêpe, l'abeille et la plante, enfin, les trois fonctionnent ensemble, et puis quand on dit les trois, déjà, on oublie tout le reste. Tout ça, c'est imbriqué, et finalement, l'un des objectifs de l'écolieu, c'est aussi ça, c'est de se dire, quand on parle de la biodiversité, on parle de toutes les espèces, et puis on ne parle pas de manière statique. C'est-à-dire que c'est aussi de parler de la dynamique de la biodiversité. Ce matin, ça a été un peu évoqué aussi. Quand on vient sur un espace, même si on est conservateur, par exemple, j'entendais tout à l'heure ce mot-là, l'objectif, ce n'est pas de conserver tel que c'est de conserver, de conserver cette capacité qu'a la nature d'évoluer. Et donc, quand on arrive sur un terrain, si on se dit qu'on laisse en libre évolution, ça le dit bien, je trouve. L'objectif, c'est d'abord, par exemple, de laisser le roncier, puis de laisser les arbres percer le roncier, puis de laisser le bois arriver, etc. Et donc, de laisser aller vers le climax, c'est-à-dire vers la forêt, ou en tout cas, selon les milieux, parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes climax. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de laisser cette évolution-là.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Et peut-être une autre question sur le public que vous visez. Donc déjà, on peut rappeler que vous intervenez à l'université, donc un public d'étudiants, j'imagine. Vous avez peut-être un but de faire connaître l'écolieu ou en fait de promouvoir ce genre de structure auprès du public étudiant ?
Alors, il y a le public étudiant. C'est vrai que c'est... Enfin, il y a des visites très, très régulières tous les ans, plusieurs fois par an. Après, il y a le grand public. On fait des ateliers pendant l'année, au moins une fois par mois, voire deux fois par mois. Et puis cet été, ça sera quasiment tous les jours. Donc ça, c'est pour le grand public. Il y a aussi des visites d'entreprises ou de collectivités. Enfin voilà, c'est vraiment tout public. Après, on s'est beaucoup posé la question. En France, c'est assez compliqué pour ça, je trouve, du statut. Ce qui apparaissait logique pour les écolieux, c'est de prendre un statut associatif. Mais personnellement, je trouvais qu'il y avait un peu tromperie si on faisait ça, parce que on vit dans ce lieu-là, on est une famille de 4 personnes, et donc il aurait fallu qu'on trouve soit un bureau avec des personnes de l'extérieur, voilà. Donc on trouvait qu'il fallait être très honnête par rapport à ça. Donc par rapport au statut, je suis en micro-entreprise depuis 2 ans. Un peu plus d'un an et demi. Et donc, pour les parties prestations, ça passe par cette micro-entreprise. Après, on a un fonctionnement qui est très hybride et très lié un peu à la culture des associations. C'est-à-dire que c'est très important pour nous que ça soit ouvert au plus grand nombre. Donc, quand quelqu'un ne peut pas payer ou quand quelqu'un trouve que c'est trop cher, on lui dit c'est gratuit ou c'est prix libre. Voilà. Même si le prix libre en France est aussi compliqué parce qu'on n'a pas cette culture. Mais voilà, ça c'est important. On a pris ce statut entreprise parce que c'était plus clair aussi comptablement, enfin voilà, pour que les choses soient transparentes. Pour les personnes qui demandent des devis, des factures, au moins c'est transparent. Après, il ne faut pas que ça soit un frein, et ce n'est pas dans notre ADN du tout d'être marchands ou commerciaux. Donc voilà, on flirte assez facilement avec les associations et avec le bénévolat quand on peut, quoi. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Et en termes d'action que vous proposez, donc est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous faites intervenir du monde? Je sais que vous proposez différents ateliers, donc est-ce que c'est uniquement vous, donc votre famille, ou est-ce que vous interagissez avec d'autres personnes qui viennent à l'écolieu?
Là, si on prend le cas du 15 avril là, prochain, c'est l'association Planète Abeille qui co-animera cette action-là. Donc on est en lien régulièrement avec différentes associations, l'ARP par exemple, l'association régionale pour l'éco-construction, quand on parle d'éco-construction, enfin, voilà, le CPIE, enfin, voilà. On a toujours des relations, soit directement pendant les ateliers par exemple, ou soit on se sert de supports qui nous ont été confiés ou envoyés par différentes structures, et puis on cite nos sources, quoi. Voilà.
D'accord, très bien, merci. Et si dans la salle, vous avez des questions, je vous invite à les poser. Je vais faire passer le micro. Aucune question. Bon, si jamais vous souhaitez de la documentation, Monsieur Bayeul vous a laissé des petites brochures pour vous faire découvrir le lieu PAA, et je pense que vous apprécierez la visite. Et écoutez, Monsieur Bayeul, je vous remercie pour votre intervention.
Merci.
Et je vous invite à rejoindre votre place.
Eh bien, merci encore une fois, Monsieur Bayeul, pour vos explications et bravo pour toutes vos actions. Merci encore une fois à M. Debroise pour nous avoir présenté l'initiative du parc Normandie-Maine. Donc,
Écoutez, je pense que Colline, moi ou tout le monde, on a pu constater qu'il y avait beaucoup d'initiatives mises en place sur les territoires et par différents acteurs. Mais maintenant, je me pose une dernière question. Je pense que nous, au niveau individuel, je me demande ce qu'on pourrait faire.
Eh bien, Fantine, on va répondre à cette question maintenant. Donc, il est 12h35 et c'est l'heure de la dernière séquence. Donc, pour ce faire, j'invite Madame Evelyne Ramon à nous rejoindre sur scène. Donc, Madame Ramon est chargée de mission à l'éducation à l'environnement et au développement durable au Centre permanent d'initiative à l'environnement Colline Normande. Donc, Madame Ramon présentera la dernière séquence de cette matinée biodiversité et elle nous explicitera donc toutes les actions qu'il est possible de faire au niveau individuel.
Bonjour à toutes et à tous, je pense que c'est bon là ? Super, bon. J'ai déjà été présentée, donc je ne vais pas me représenter. Puis alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a déjà plein de choses que vous avez dites avant, les intervenants. Donc là, je ne vais peut-être pas, faire du nouveau, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, ça va bien ancrer la répétition, c'est l'éducation. Donc comme ça, tout va être bien ancré. Donc... Voilà, donc moi je suis, donc, comme c'est écrit, chargée de mission éducation à l'environnement et au développement durable. Donc j'ai plusieurs missions, je suis animatrice nature au CPIE, donc en lien direct avec les publics, tout public, hein, que ce soit du scolaire, du centre de loisirs, du grand public ou des publics un peu plus spécialisés. Et puis je coordonne aussi certains projets, l'accompagnement par exemple d'ABC, je travaille aussi sur les plans lycée durable, notamment sur... la biodiversité avec le conseil régional, coordination aussi de projets qui s'appelaient par exemple OE citoyens, où on engage des ambassadeurs, des ambassadrices, justement dans comment est-ce qu'on préserve le bocage, voilà, différents projets autour de la biodiversité. Alors, avant de dire, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelques prérequis ou quelques verrous à faire sauter. On a déjà évoqué cela, et notamment avec le grand secret du lien, ou le secret du grand lien, je ne sais plus, là, qui va être diffusé à Lyon-sur-Mer, donc avec François Lenormand. Donc l'idée, c'est de se reconnecter à la nature. Donc aller dans la nature, y aller par tous les temps, vraiment ce c'est pas le côté connaissance, hein, c'est vraiment le côté sensible, sauter dans les flaques, marcher dans la boue, toucher des plantes, observer des oiseaux, tout ça, ça permet de se reconnecter à la nature. Ensuite, le deuxième verrou à faire sauter, c'est d'acquérir des connaissances. Donc connaître les modes de vie de reproduction des animaux, des plantes, connaître les fonctionnements des écosystèmes, hein, quand on peut y aller. Les connaissances, elles vont s'acquérir à l'école, mais elles vont s'acquérir aussi avec des passeurs ou des passeuses de nature, des amis, des familles, hein, qui vont permettre justement aux enfants, aux adultes, d'avoir un autre regard, une autre connaissance en fait de la nature. Mais c'est aussi tout simplement observer un oiseau qui fait son nid, c'est déjà aussi une partie de la connaissance donc qu'on peut acquérir. Et le troisième verrou, c'est de vaincre ses peurs. Alors la peur de la nature, c'est assez terrible, et on le voit bien notamment quand on accueille des classes à la Maison de la Rivière et du Paysage ou sur d'autres sites, ne serait-ce que s'asseoir par terre, par exemple, j'ai peur de me salir, prendre une araignée ou une petite bête dans ses mains, j'ai peur qu'elle me pique, toucher des plantes, voilà, j'ai peur que ça me pique, enfin voilà, il y a plein de peurs. Alors bon, je vous passe les araignées et les serpents parce que là tout le monde vraiment on va dire 99% des personnes ont peur. Donc, à tel point que c'est quelque chose qui m'a vraiment trotté dans la tête pendant quelques années. Et que l'année dernière, j'ai monté une animation juste sur travailler sur les peurs. Et ça fonctionne. Donc voilà, on ne force pas. Mais j'ai absolument pas de connaissances psychologiques. Ce n'est pas du tout ma formation. Mais y aller progressivement. Et faire que ce soit juste la personne qui décide de ne plus avoir peur, eh bien, il y a des petites techniques en animation nature qui peuvent fonctionner en fait. Donc voilà. Et puis alors la deuxième peur, qui n'est pas la peur, qui est directement liée aux espèces animales ou végétales, c'est la peur du regard de l'autre. Là aussi, ça a déjà été évoqué. Donc, si on laisse son jardin un peu sauvage avec des orties, avec des ronces, avec des chardons, hein, comme l'a si bien dit Boris, eh bien, on peut être taxé de sale, de négligé, de khmer vert, d'écolo. Enfin, voilà, j'en passe d'indien, peut-être aussi. Ça, je ne l'avais pas, celle-là. Donc, le volet social, il est quand même super, super, super important. On a besoin d'amis, on a besoin de relations sociales. Et ça, ça peut tout de suite nous faire aller dans une catégorie qui fait qu'on va se priver de liens sociaux, des voisins, de la famille, des amis, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel on peut travailler pour dire, et moi, dans tout ça, avant d'arriver à faire des actions dans son jardin. Alors, quand on a un jardin, ce que je vais faire quand on a un jardin, mais quand on habite en ville, on peut aussi agir pour la biodiversité. Je vais commencer par quand on a un jardin. Eh bien, laisser une place au sauvage et à la spontanéité. Donc, alors, laisser pousser, j'allais dire, faire des fauches tardives ou pas, voilà. Ça peut être une... On peut y aller aussi progressivement, hein, de dire, ben voilà, on expérimente et on voit un petit peu ce que ça donne. J'ai une autre anecdote, par exemple, j'ai aussi accompagné la construction d'un jardin partagé dans des quartiers défavorisés. Et en disant, bah, voilà, est-ce que vous pouvez accepter, qu'est-ce que vous pensez de laisser un espace, justement, à la biodiversité, le laisser en libre évolution, ne pas y toucher? Il y a vraiment eu des grosses réticences, c'était au pied des immeubles. Oui, mais il va y avoir des bêtes, oui, mais les bêtes, elles vont rentrer par les fenêtres. Voilà, donc, et donc c'était de dire, bah, on peut peut-être expérimenter, juste voir ce que ça donne, voir si vraiment il y a des bêtes, si elles rentrent, si ça vous pose un problème ou pas. On expérimente un an, on voit ce que ça donne, 2 ans, etc. Et puis avec la possibilité aussi de revenir en arrière. Donc dans son jardin, on peut laisser des tas de bois qui vont accueillir aussi quantité d'espèces, d'insectes xylophages, qui vont servir de gîte à hérissons, voilà. Autre espèce sauvage, ça va être le lierre, on le laisse pousser au sol, on le laisse grimper aux arbres, ça va accueillir les oiseaux autour de la migration, ça va permettre de nourrir les abeilles à l'automne quand il n'y a plus beaucoup de fleurs, ça va permettre de limiter les écarts de température sur les arbres. Voilà, ce sont des espèces qu'il faut, enfin des espèces et des espaces qu'il faut réhabiliter et vraiment laisser une place au sauvage, que ce soit à l'extérieur. Mais je pense qu'il faut aussi laisser s'exprimer le sauvage qui est en nous, en fait. Et donc ça, on a toujours tendance à être un peu rigide. Et la spontanéité, le sauvage, voilà. Ça, si on commence à l'avoir en nous, je pense qu'on peut l'accepter aussi à l'extérieur. Bon, là, c'est peut-être la psychologie à petite semaine, mais voilà. C'est ce que je pense. Alors, quand on a un jardin, on peut aussi pallier, justement, aux problématiques d'érosion de la biodiversité en aménageant. Donc on peut actuellement, j'ai aussi parlé de moi, je suis en train de refaire la maçonnerie de ma maison en pierre et donc de faire les joints. Et j'ai dit aux maçons, surtout, vous laissez des trous pour les oiseaux. Donc il faut absolument qu'ils laissent tout ça là, interpeller. Vous êtes sûr? Oui, oui, je suis sûr, je veux des trous pour les oiseaux. Donc, pour qu'il y ait les mésanges. Et là, en ce moment, il n'a pas encore commencé. Tout est dépiqueté. Et je vois bien que les mésanges, elles sont là. Elles voient plein de trous. Donc, c'est génial. J'espère juste qu'il ne va pas les boucher. Enfin, voilà, je vais être super vigilante à ça. Donc, c'est un premier aménagement. Des mares pour les amphibiens. Des hôtels à insectes. Attention aux hôtels à insectes, parce que la concentration va attirer des parasites. Et on va voir un effet inverse sur les hôtels à insectes. Il vaut mieux un environnement super sauvage, plutôt que d'installer des hôtels insectes. Ça peut être des petits gîtes répartis un petit peu partout dans le jardin. Donc, les nichoirs à oiseaux, des abris à chauves-souris, des abris à hérissons, des abris à crapauds. Voilà, on peut mettre aussi plein d'abris plus ou moins artificiels dans son jardin pour pallier justement à la perte de biodiversité. Mais attention à la concentration. C'est pareil, je reviens aussi sur les ruches. Trop de ruches, ça va nuire à la biodiversité. Il n'y a pas plus de 3 ruches au kilomètre carré. Parce que ça va concurrencer très fortement les pollinisateurs sauvages. Donc il faut aussi bien réfléchir. Si vous faites une mare et puis qu'à côté, vous avez une départementale, voilà, vous êtes sûr que tous les amphibiens vont se faire écraser, quoi. Donc il faut aussi voilà, réfléchir aussi à ces aménagements. Préserver son sol. Quand on a un jardin, on peut aussi avoir un potager, éviter de laisser le sol nu. Apporter donc le paillet, laisser aussi des herbes sauvages. La biodiversité du sol, elle est aussi très, très importante. Quand on parle du sol, on parle aussi des espèces des cours qui peuvent être aussi goudronnées. Donc là, on nuit aussi à la biodiversité parce que tout ça, ça va s'écouler dans les cours d'eau. Ça va, l'imperméabilisation des sols, ça va accélérer aussi la circulation de l'eau. Ça va amener des polluants, donc ils vont polluer les écosystèmes aquatiques. Donc là aussi, des cours où il peut y avoir un peu d'herbe sauvage, un peu, mais même beaucoup, enfin voilà, où l'eau puisse s'infiltrer, c'est aussi important pour la biodiversité de faire attention à son sol. Alors, quand on n'a pas de jardin, quand on veut s'investir localement, eh ben, on peut s'investir à différents niveaux. Nous, au CPIE, par exemple, on a mis en place les essaimeurs de nature. C'est une formation sur, je sais plus, c'est 3 ou 4 week-ends, où on va former des personnes. On a un lieu d'accueil du public, la Maison du Paysage. Et donc, on est ouvert les week-ends à partir d'avril jusqu'à septembre. Et on fait appel à nos bénévoles, nos adhérents, nos adhérentes, qui peuvent venir tenir la permanence. Donc voilà, ça fait café, donc ils peuvent servir des boissons, des glaces, etc. Mais ils sont aussi là pour parler de nature, justement, aux personnes qui vont passer. On est sur un chemin de grande randonnée, donc pour discuter de tout ça, pour faire ce qu'on appelle aussi du maraudage. Donc ils peuvent aller sur le site, se promener, et puis aborder les personnes, et puis leur parler de la biodiversité du site, de la biodiversité en général. Donc on peut s'investir là-dedans. On peut s'investir aussi à faire des animations nature, alors pas forcément dans le cadre des semeurs de nature, mais aussi sensibiliser son entourage, justement, à la nature. On peut animer des ateliers de découverte, on peut faire déguster des plantes sauvages, on peut faire sentir des fleurs. Tout ça permet toujours de se reconnecter à la nature. Et puis, je pense aussi qu'il y a autre chose qui peut permettre aussi une sensibilisation à la nature, c'est d'y aller par l'intermédiaire de l'art. Donc là, j'ai mis une photo de Land Art, par exemple. Donc, que ce soit des contes nature, du Land Art ou autres œuvres d'art qui vont avoir un lien avec la nature, avec la biodiversité, eh bien, ça peut être aussi un média qui peut être utilisé justement pour parler de nature. Donc, à mon sens, ce qui est vraiment très important, je l'ai déjà évoqué, c'est de privilégier tout ce qui est expérimentation et de rester bien à l'écoute des peurs et de ne pas ni les minimiser, ni les tourner en dérision, en fait. Hein, donc, comme par exemple, ah, bah, t'as peur, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse ou des choses comme ça, bah, ça marche pas. Ça, on l'a tellement entendu, si ça marchait, je pense qu'on n'en serait pas là. Hein. Donc, c'est bien au contraire de faire exprimer les peurs et d'aller au plus profond. Et on peut entendre, dans l'animation que je fais par exemple, on peut vraiment entendre des histoires assez terribles de traumatismes faits pendant l'enfance par l'entourage familial ou par un vécu. Enfin voilà, des choses qui peuvent être assez étonnantes. Et on comprend aussi que les peurs, elles peuvent être vraiment très, très ancrées. Les peurs, elles peuvent être ancrées aussi donc par les familles, par les médias. Par la religion, enfin voilà, on a tout un entourage qui nous font baigner dans les peurs. Donc, en expérimentant, c'est vraiment en se basant là-dessus qu'on va justement lever toutes ces peurs. Donc, l'important, effectivement, de se parler, de communiquer, de raconter, de sensibiliser, d'expliquer, ça, c'est essentiel. Et ce qui est essentiel aussi, à mon sens, c'est qu'il faut y mettre beaucoup de joie et montrer aussi qu'on soit valeur d'exemple. Voilà. Alors, valeur d'exemple, je le mets vraiment entre guillemets, mais à partir du moment où on est très enthousiaste, on montre que la nature aussi peut nous rendre heureux, peut nous procurer du bonheur, etc. Je pense que là aussi, ça peut aider à attirer aussi d'autres personnes à avoir un autre regard sur la nature, sur la biodiversité. Alors, quand on n'a pas de jardin, en général, on a un logement et on peut avoir des araignées dans sa maison. Donc, ne pas tuer les araignées, ça permet aussi de garder, de préserver la biodiversité. Les petits folques là, qui se promènent, qui sont au plafond, ils ne sont pas très, très gênants. Et puis, en plus, bah, ils font partie des écosystèmes. Ils vont manger aussi quelques moustiques, quelques mouches qui vont arriver dans la maison. Donc, ils peuvent être aussi des auxiliaires de l'être humain, même si, à mon sens, c'est pareil. Les espèces ne sont pas là forcément pour servir une seule espèce. Mais bon, on peut déjà commencer sous cet angle. Et puis après, quand on en arrive à ce stade-là, c'est qu'on est déjà allé un peu plus loin. Si on habite en immeuble, eh bien, on peut aussi poser des nichoirs à oiseaux, des abris à chauves-souris. On peut aussi, en pied d'immeuble, demander à avoir des bacs à compost. Voilà, devenir maître ou maîtresse composteur. Et puis, on peut aussi demander à sa commune, à sa collectivité, là, c'est Chevigné, je ne sais plus où, du côté d'Angers, je crois, qui a vraiment, oui, c'est ça, qui a mis en place un programme de végétalisation de ses rues. On voit tout en bas, alors, ouais, c'est avant et après. Et ça a permis, effectivement, d'avoir une biodiversité un peu plus importante, mais d'agir aussi sur vraiment plein de niveaux. Au niveau économique, c'est devenu très touristique. Ça a permis aussi, la biodiversité, là, elle a permis aussi de créer des emplois. Donc, elle a permis des liens sociaux aussi beaucoup plus importants. Elle permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur. Enfin, voilà, végétaliser, ça permet aussi plein de choses derrière. Et puis, quand on ne peut pas encore faire tout ça avant, il y a aussi d'autres choses qui sont indirectes. Si on mange bio et local, on va préserver aussi les sols agricoles, puisqu'on n'aura pas de pesticides qui ne vont pas abîmer les sols ni les plantes. Si on mange local, eh bien, là aussi, on va limiter nos déplacements. le déplacement de nos aliments. Ça va permettre aussi de moins générer de carbone, donc moins de changement climatique, qui va aussi avoir un impact sur la biodiversité. Donc la même chose pour la consommation d'énergie par rapport à ces déplacements. Et puis tout ce qui est produits naturels, produits d'entretien, cosmétiques, qui sont écolabellisés, ça évite qu'ils se retrouvent dans les cours d'eau et qui nuisent aussi à la biodiversité des cours d'eau. Donc voilà pour les initiatives individuelles indirectes. Donc, et moi, dans tout ça, je pense qu'à un moment donné, on peut faire quelque chose à quelque niveau que l'on soit, que l'on ait un espace de nature chez soi ou que l'on n'en ait pas. Il y a vraiment plein de possibilités d'intervenir. Voilà.
Merci, Madame Ramon. Merci beaucoup, Madame Ramon. J'espère que ça aura donné quelques idées à certaines personnes dans la salle pour agir au niveau individuel. Donc, mesdames et messieurs, ce colloque touche maintenant à sa fin. Donc, Fantine, moi-même, l'ensemble de la promotion et nos professeurs, on souhaitait vous remercier d'être venus ce matin et d'avoir été présents avec nous pour cette matinée biodiversité. Donc, bien évidemment, on remercie très chaleureusement tous nos intervenants qui ont fait le déplacement et qui ont pu participer avec nous ce matin. Et enfin, on voulait remercier aussi toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce colloque.
Donc, vous recevrez les liens vidéo qui vous permettront de visionner l'ensemble de la matinée et nous ne manquerons pas de vous envoyer le compte-rendu d'ici quelques temps. En attendant, pour la fin, je vais laisser la parole à Madame Sylvie Le Calvez, donc professeure associée à l'Université de Caen. Et ensuite, on aura quelques mots de Madame Amy Wells, donc responsable du master et des trois parcours que Monsieur Le Goupil nous a présentés, pour clôturer cette matinée.
On peut accueillir Madame Le Calvez.
Bonjour à toutes et à tous. Presque tout le monde est resté toute la matinée, c'est super. Hein. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. En tout cas, je suis venue surtout pour dire merci. Merci. Avant tout aux étudiants, parce qu'ils ont tellement travaillé, œuvré, stressé, ri parfois aussi, mais quand même, il y a eu des moments compliqués. Mais ils ont fait ça avec une solidarité, une énergie, un dynamisme absolument incroyable. Vraiment, grand bravo. Vraiment, vous êtes prêts pour la vie professionnelle. Et c'est vraiment vous que je souhaitais féliciter, bien sûr, en premier. Merci aux intervenants qui ont accepté de venir ce matin, qui sont venus parfois de loin. Et aux participants dans la salle, les élus aussi, hein, qui sont venus parfois de la Manche, qui bougent, j'ai entendu tout à l'heure, ou, donc l'Orne, la Manche, le Calvados, à nos partenaires à Canopée, hein, qui nous prêtent ces lieux, c'est quand même c'est une vraie chance, au CEMU, les collègues qui font la captation pour qu'on puisse retransmettre ensuite ces visuels. Donc ces remerciements sont vraiment sincères, chaleureux, au nom de tout le monde. En tout cas, j'espère que cette matinée vous aura plu, que vous l'aurez trouvée riche et que vous aurez envie, en tout cas, d'embaucher des jeunes du parcours développement durable, stratégie de concertation et de communication. Enfin, pour tout vous dire, on n'avait pas envie de vous les laisser. Moi, je les aurais bien tous fait redoubler, je l'aurais déjà dit. C'est une promo extraordinaire. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. C'était jamais une contrainte quand je devais venir à l'université pour préparer ce moment. Donc, je pense que ceux qui les embaucheront auront aussi beaucoup de plaisir à travailler à leur côté. Et ça a été vraiment une belle aventure cette année. J'espère que ce sera de même l'an prochain sur le thème de l'économie sociale et solidaire. Donc, vraiment, félicitations renouvelées. Il y aura aussi un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé. Je fais un petit rajout, puisqu'on ne l'a pas dit, mais profitez, parce que ça nous permet chaque année d'améliorer encore le processus, de nous dire ce qui vous a plu, ce qui a marché, ce qui a un peu moins bien marché, peut-être, pour qu'on puisse, d'année en année, encore progresser sur l'organisation de cet événement. Je ne vais pas rester toute seule comme ça trop longtemps, parce que ce n'est même pas super agréable, même si j'ai la chance d'avoir Léa à mes côtés, qui a été derrière son PowerPoint tout le temps, pour dire qu'il n'y avait pas de... Il y a ceux que vous avez vus en tribune, hein, effectivement, Fantine, Colline, Jeanne, Florian, Thiéphène, etc., que vous avez vu passer ici. Puis il y a tous ceux qui étaient dans l'ombre, mais qui ont énormément travaillé, que ce soit pour la réalisation des visuels, pour faire les relations presse, pour prévoir le café, les croissants, pour décorer la salle, pour faire le PowerPoint, et j'en passe. Donc, effectivement, tout le monde a été de façon équitable très, très occupé sur cette manifestation. Et il y a ceux qui étaient en visible là et tous ceux qui étaient dans l'ombre, dont Léa qu'on voyait à peine mais qui peut se lever maintenant, ainsi que tous ces autres camarades que j'appelle à me rejoindre à la tribune avant de laisser la parole à Amy Wells, la responsable donc des trois parcours d'ingénierie de projet, expert en projet européen, implantation des entreprises internationales et développement durable, stratégie de concertation et concertation. Didier Le Goupil, merci de nous rejoindre aussi en tant que responsable du parcours des DSC. Voilà, voilà, vous les avez tous là, ceux qui étaient dans l'ombre, ceux qui étaient dans la lumière. La photo est possible, tout à fait, c'est autorisé. Je vais me reculer un peu, moi, parce qu'on voit que moi, là, c'est pas bien. Voilà, voilà, vous avez toute la petite équipe qui a contribué à cet événement. Et puis, je demande, j'appelle Amy West, je ne sais pas où elle est, Amy, voilà, à nous rejoindre pour lui laisser des quelques mots de clôture. Merci beaucoup, Amy, de nous avoir participé, d'avoir participé toute la matinée à nos côtés. Merci.
Bah, je vais répéter un tout petit peu, je pense, que Sylvie vient de dire, parce qu'elle a beaucoup remercié tout le monde qui est là. Donc d'abord, je souhaite dire bravo à la promo DDSC. Vraiment, je pense qu'on peut encore les applaudir. Aujourd'hui, j'ai constaté de votre travail d'équipe. Vous n'avez pas compté les heures, je pense. On a profité de votre prestation lisse et fluide, parce que vous avez préparé chaque étape critique du colloque. Vous avez répété ces étapes. J'ai entendu que hier, c'était particulièrement long, mais bravo, parce que ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, le colloque nous fait constater aussi votre progrès depuis la rentrée en octobre 2022. Vous avez passé le cap d'être des étudiants. Vous êtes maintenant des junior consultants qui vont contribuer à la transition écologique. Ça tombe bien, vous partez en stage dans 2 semaines. J'ai hâte de voir ce que vous allez accomplir pendant vos stages. Donc, nous nous donnons rendez-vous fin septembre pour voir les beaux résultats. Je félicite aussi mes collègues Sylvie et Didier. Didier, qui en tant qu'enseignant de communication, aurait accompagné certains de ses étudiants pendant 5 ans. Hein, c'est quand même le fruit aussi de ce travail d'investissement et d'accompagnement. Sylvie, comme on a dit, Sylvie a un poste particulier, elle a une PAST, c'est-à-dire qu'elle est une professionnelle qui vient partager ses compétences avec les étudiants au sein de l'université. C'est un dispositif qui est critique pour nos masters langues étrangères appliquées, pour le côté professionnalisant. Donc, grand merci Sylvie et Didier. Et puis, je remercie aussi les intervenants que vous avez accordé du temps et de l'énergie à nos étudiants parce que cette mise en situation professionnelle, on ne pourrait pas faire sans vous. Et même si, oui, on est en train de former des citoyens de l'avenir, nous aimerions bien aussi que nos étudiants trouvent facilement leur insertion, qu'ils arrivent à s'insérer professionnellement rapidement après leur diplôme. Alors, aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que vous avez présenté, c'est un appel à action. Est-ce que j'ai raison? C'est un appel à action pour nous tous de réfléchir comment on va travailler les questions de la biodiversité dans chacun de nos contextes individuels, c'est-à-dire au sein de nos familles, dans nos associations et même sur notre lieu de travail. Parce que le programme était très riche, on a vu des perspectives croisées de plusieurs types de structures. Et de toute façon, je vous quitte aujourd'hui en m'interrogeant, est-ce que j'amène mes voisines de 91 et 12 ans dans un écolieu? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose chez moi, sachant que je n'ai pas de jardin? Et puis toujours, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur le campus pour qu'il soit plus durable? Donc voilà, bravo à vous et merci encore à tous les intervenants. Je pense qu'on va partir bien inspirés.
Merci. Tout le monde voulait rester encore pour l'après-midi, mais c'était pour la matinée, une grosse matinée. Merci beaucoup de votre présence. Bon retour, bon appétit à tous.